Bonsoir et bienvenue du grain à moudre sur France Culture. Ce soir, Brésil, est-ce la fin d'un modèle ? Cela faisait 2 ans et la destitution de Dilma Rousseff que le Brésil vacillait, écœuré par les scandales de corruption, assommé par la récession, terrifié par l'insécurité. Cela faisait 15 ans et l'élection de Lula que le pays espérait, plus de justice sociale, plus de croissance, plus de puissance et de respect sur la scène internationale, des objectifs en partie atteints. Enfin, cela faisait 33 ans et la fin de la dictature qu'il se partageait entre une droite centriste ou conservatrice et une gauche qui se voulait progressiste, bref, qu'il profitait de l'alternance démocratique après 2 décennies passées sous le joug de militaires. Et voilà qu'aujourd'hui, le Brésil se choisit un homme qui porte un discours inédit depuis le temps des généraux, un discours autoritaire, violent, sexiste et raciste, un discours néolibéral, négligeant certains droits élémentaires, négligeant l'environnement aussi, loin de celui porté récemment par les dirigeants brésiliens, quel que soit leur parti. Brésil, est-ce la fin d'un modèle ? C'est la question ce soir du Grain à Moudre avec 3 invités. Juliette Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine à Paris 3, auteur de Diplomatie culturelle et Fabrique des identités, Argentine, Brésil, Chili, 1919-1946, c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Christophe Ventura, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique Latine, rédacteur en chef du site Mémoire des Luttes. Vous avez aussi participé à la conception et à l'organisation des forums mondiaux, sociaux mondiaux depuis leur création. C'était au Brésil d'ailleurs, hein. C'était
absolument.
En 2001 à Porto Alegre et vous êtes l'auteur de L'éveil d'un continent géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, c'est chez Armand Collin. Frédéric Louau, bonsoir. Frédéric Louau, en duplex de Bruxelles chez nos amis de la RTBF, professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, j'espère qu'il est bien avec nous, chercheur au CERI, vice-président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes et auteur, co-auteur plus précisément avec Olivier Daben, d'un atlas du Brésil, promesses et défis d'une puissance émergente, c'est publié par Autrement. Pour comprendre l'élection de Jair Bolsonaro, nette victoire, hein, on l'a dit il y a quelques minutes dans le journal, avec 55% des voix, pour comprendre ce qu'elle dit, cette élection du Brésil aujourd'hui, et pour envisager aussi ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence, eh bien, essayons de nous pencher d'abord sur ce qu'a été le Brésil au cours des dernières années, et pour reprendre l'un des termes de la question posée, pour comprendre le modèle brésilien, Juliette Dumont, est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle brésilien ?
Bien, c'est toute la question. En fait, cette question, il va falloir l'historiciser et pour cela faire de l'histoire du temps présent, donc les 15 dernières années que vous avez citées, les 33 années de démocratie et le temps beaucoup plus long de l'histoire du Brésil depuis finalement la colonie. Et en fait, si l'arrivée au pouvoir de Lula, du Parti des Travailleurs, d'une politique beaucoup plus inclusive, c'était du jamais vu dans l'histoire politique brésilienne. Le problème, c'est que la politique menée par le Parti des Travailleurs et par Lula n'a jamais remis en cause profondément les structures de la société brésilienne. Donc les structures sociales, des inégalités, le Brésil est parmi les pays les plus inégalitaires au monde, et les structures économiques, c'est-à-dire que les programmes sociaux implantés par le gouvernement de Lula puis Dilma Rousseff s'appuyaient sur l'exportation de matières premières, et cela ne remettait pas en cause en fait l'organisation économique du pays, et cela finalement a permis de masquer pendant un temps les profondes inégalités. Et je dirais que je ne suis pas pourtant particulièrement marxiste, mais le fait qu'il y a au Brésil une véritable lutte des classes. Et pendant quelques années, grâce à la prospérité économique, cela a pu être masqué. Et aujourd'hui, en fait, les plaies du Brésil, les fractures de la société brésilienne, eh bien, se trouvent exposées au grand jour.
C'est un modèle fracturé, ce modèle brésilien, Christophe Ventura ?
Ben oui, c'est une fracture qui se rouvre en réalité, qui était effectivement dans les structures de la société brésilienne, et elle se rouvre aujourd'hui à la faveur de l'épisode Bolsonaro. On en reparlera, mais qui n'est qu'un épisode en réalité d'une crise qui a démarré avant lui et dont il est un produit. Mais oui, elle se rouvre, les inégalités très fortes. Vous savez, au Brésil, un rapport d'Oxfam a rappelé que les 6 personnes les plus riches détenaient autant 100 que les 100 millions les plus pauvres au Brésil. On est dans un pays qui fait 210 millions d'habitants, ça vous donne une idée. La puissance des propriétaires terriens, ce racisme structurel, parce que il faut comprendre le racisme dans sa dimension sociale au Brésil. Vous savez, contrairement à parfois ce qu'on peut penser, la majorité des Brésiliens sont noirs ou métis, en tout cas ils se déclarent comme tels, environ 55% de la population. Et souvent, les pauvres au Brésil sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en général, on est pauvre et noir au Brésil. Et tout ça, c'est ce qui est en train de ressortir. La fracture, elle est là. La revanche de Bolsonaro, en quelque sorte, c'est la revanche d'un Brésil sur un autre.
Frédéric Louau.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel est le modèle, selon vous, le modèle brésilien, pour compléter ce qui vient d'être dit?
Oui, Lula a mis en place une formule politique qui a été appelée d'ailleurs a posteriori le lulisme, qui permettait de rapprocher les secteurs sociaux en gouvernant avec les élites pour redistribuer aux plus pauvres. Et ça a été présenté comme finalement un nouveau modèle politique, mais qui s'est avéré être particulièrement fragile, notamment lorsque le contexte de l'économie internationale a évolué de manière moins favorable. Et le moindre grain de sable finalement dans ce rouage du lulisme a provoqué finalement un affaiblissement des politiques sociales, de la politique économique, et finalement un affaiblissement du modèle en lui-même. Et les élites qui ont appuyé de manière très pragmatique le président Lula puis Dilma Rousseff se sont retournées contre le Parti des Travailleurs.
On a cru à un moment que le Brésil allait décoller dans les années 2000. C'est ce qui se disait beaucoup. Pourquoi ça n'est pas arrivé, Julia Dumont? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, il a pu paraître décollé d'abord parce qu'il était très fort diplomatiquement, grâce à ce que vient de rappeler aussi Frédéric Louau, une économie prospère. Hein, on a eu des taux de croissance à près de 7% au début des années 2000. Un discours aussi très positif, très volontariste. Mais comme vient aussi de le dire Frédéric Louau, c'était un modèle très fragile, encore une fois, qui était basé sur ce pacte avec les élites qui ne pouvait marcher que si l'économie allait bien. Et l'économie, elle allait bien si le prix des matières premières à l'international était élevé et pouvait permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. À partir du moment où il n'y a plus cette rente pour l'État, l'État n'est plus capable de faire de la redistribution et son électorat, eh bien, se détache de lui et les élites reprennent l'avantage, en fait.
Christophe Ventura.
Oui, enfin, dans le même ordre d'idée, le pacte de Lula, puisque c'était comme ça qu'on appelait ce modèle à l'époque, qui avait été d'ailleurs consigné, si j'ose dire, par Lula lui-même dans la lettre aux Brésiliens qu'il avait écrit en 2002. Il expliquait en fait ce projet, qui est, pour être tout à fait marxiste, un projet de conciliation de classe, en fait, hein, c'est-à-dire un pacte entre une partie de la bourgeoisie productive et puis une partie des classes populaires pour l'intérêt national, en quelque sorte. Bon, et pour compléter tout à fait le modèle, il y avait l'idée que évidemment il fallait permettre disons à la bourgeoisie productive de pouvoir avoir tous les bénéfices qu'elle souhaitait de ses exportations dans le cas brésilien de l'agro-business, enfin tout ça, des ressources naturelles, une redistribution au niveau des classes populaires, mais une redistribution qui allait rejoindre après le cercle vertueux keynésien, c'est-à-dire que cette redistribution devait permettre, si vous voulez, d'être du charbon qui allait lancer une commodité de la consommation populaire, laquelle allait constituer un marché intérieur brésilien et peu à peu permettre aux entreprises brésiliennes de ne moins dépendre précisément des grands marchés globaux et de l'extérieur, en quelque sorte, pour pouvoir s'appuyer sur une demande intérieure qui en plus était pensé à étage avec après un échelon latino-américain. Dans la théorie, c'était ça le projet. Ça n'a pas abouti pour tout, loin de là. Mais il faut aussi avoir autre chose, à mon avis, en tête quand on parle de ce modèle que voulait mettre en place Lula. C'est que, précisément, il a pas été en mesure de réellement créer ce marché commun, disons, si j'ose dire, latino-américain, qui est un grand trou dans l'intégration latino-américaine et dans sa capacité à être autonome sur le plan international. Et le Brésil espérait pouvoir être cette puissance hégémonique consensuelle, comme on disait à l'époque, permettant de le faire, et ça n'a pas marché. Et c'est tout ça qui a posé problème. Et une singularité du Brésil et de l'Amérique latine, c'est que la gauche est arrivée au pouvoir en général, elle arrive au pouvoir quand c'est une crise aiguë et on lui demande de régler la crise. Et en général, c'est compliqué. Dans le cas latino-américain et brésilien, l'anomalie, si j'ose dire, créative, c'est que la gauche est arrivée au pouvoir dans un moment où s'est mis en place un cycle de prospérité capitaliste.
Oui, ça allait plutôt bien.
Ouais. Oui, mais qui n'était pas même pas de leur fait. C'est-à-dire qu'il y avait un cycle d'expansion de la mondialisation dont, en fait, la gauche localement a pu, sur laquelle a pu s'appuyer et elle a pu faire les politiques qu'elle a faites jusqu'à ce retournement qui a été mentionné par Frédéric.
Donc un modèle fragile, des fractures qui se rouvrent au Brésil et là-dessus également des problèmes dans la société brésilienne sur lesquels a capitalisé Jair Bolsonaro, le président élu du Brésil. Je voudrais qu'on écoute la réaction de deux de ses électeurs, deux partisans de Jair Bolsonaro hier soir après la victoire de leur candidat. Ils pointent, vous allez l'entendre, deux sujets qui ont marqué la campagne du candidat extrême droite.
Je me sens très bien. Maintenant, c'est un pays que je souhaite. Pas un pays communiste. Non, ce n'est plus un pays communiste. Le Parti des Travailleurs, c'est terminé. C'est terminé.
Je me sens délivré maintenant du Parti des Travailleurs. La corruption a pris fin au Brésil. Nous devons maintenant planifier et prendre soin de ce pays.
Pas de communisme. Fini la corruption, voilà ce que disent ces deux Brésiliens. Frédéric Louau, on va laisser le communisme de côté, on y reviendra tout à l'heure, mais la corruption, c'est l'un des thèmes majeurs de la campagne de Jair Bolsonaro. Est-ce que c'est l'une des explications majeures aussi de sa victoire hier?
C'est une des explications, mais c'est loin d'être la seule. Disons que c'est un fait de campagne assez important pour une raison particulière, c'est que le Parti des Travailleurs, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, s'était engagé à moraliser la vie politique et à transformer le système politique. Mmh. Et on s'est vite rendu compte que le Parti des Travailleurs s'est fait absorber par le système qu'il prétendait réformer. Et cette absorption s'est manifestée par différents scandales de corruption dès 2005, mais le plus fort qui a éclaté en 2014 et qui a finalement ruiné la crédibilité du Parti des Travailleurs dans le domaine de la moralisation de la vie politique et de l'éthique. Et donc ça, bien sûr, ça a donné des arguments à la droite dans un premier temps, mais la droite s'est elle-même retrouvée face à ses responsabilités et à ses propres scandales, et donc ça a laissé un champ libre à l'extrême droite pour occuper ce thème de la corruption et en faire un débat de campagne électorale.
Juliette Dumont, sur la corruption, est-ce que c'est une raison parmi d'autres, et c'est le cas, mais est-ce que c'est pas une raison majeure aussi compte tenu de ces scandales que vient d'évoquer Frédéric Louau?
Oui, c'est une raison majeure, mais je rejoins Frédéric Louau, associé à d'autres. Vous avez parlé les électeurs ont parlé là de la peur du communisme, la corruption. Il faudra ajouter la question de la violence également, qui est omniprésente dans la société brésilienne. Et c'est une espèce de ras-le-bol qui s'exprime. Et la corruption, elle est réelle, hein, touchant le Parti des Travailleurs, touchant d'autres partis. C'est aussi un construit depuis 3-4 ans dans le discours médiatique, et même si l'ensemble de la classe politique a été éclaboussée, il y a eu une focale qui a été mise sur le PT, et l'antipétisme dont on a beaucoup parlé, qui expliquerait le résultat de ces élections, il est aussi le résultat d'un construit médiatique. Donc il faut aussi insister, quand on parle de la démocratie brésilienne, sur le fait que le quatrième pouvoir au Brésil, c'est-à-dire les médias, ne joue pas son rôle. C'est un paysage médiatique quand même très différent de celui que nous connaissons, pas très pluriel, et travaillant pour des intérêts très particuliers.
Et les médias qui ont mis sur le même plan pendant des mois et des mois le PT d'un côté et Bolsonaro de l'autre. Oui. Un temps donc Lula, puisqu'il était question que l'ancien président puisse se présenter, ce qui n'a finalement pas été le cas, et donc Jair Bolsonaro de l'autre, Christophe Ventura.
Oui, absolument. D'ailleurs, il faudra faire les comptes historiquement, si j'ose dire, puisqu'on parlait d'histoire tout à l'heure. Oui. Il y a une responsabilité des médias brésiliens qui est énorme. Hein. Je veux dire, ils ont joué avec le feu s'appelle Bolsonaro, en mettant comme ça une symétrie entre la gauche et l'extrême droite, tout ça pour essayer de sauver le centre qui était au pouvoir depuis 2 ans de manière non élue, hein, il faut le rappeler. Tout ça a nourri une campagne tout à fait détestable, qui a à la fois normalisé Bolsonaro et puis qui a à la fois diabolisé la gauche. Alors, sur l'affaire de la corruption et de la violence, qui sont effectivement, dans le contexte et la conjoncture, deux éléments très importants de ce qui a été l'enjeu de cette campagne, il faut dissocier ce qui est l'analyse du phénomène de la corruption lui-même, qui demanderait beaucoup de temps, qui est très complexe en réalité, parce que la corruption, elle arrive à beaucoup d'étages de la société. Elle a malheureusement une fonction aussi dans certaines sociétés où l'État n'existe pas, où il est défaillant, où il est vulnérable. C'est aussi d'ailleurs, tout en détruisant les systèmes démocratiques et les institutions, parce que c'est à ça qu'aboutit la corruption, en même temps, elle permet des systèmes de solidarité d'urgence dans certains cas, pour des populations qui n'ont pas de protection. Donc c'est très compliqué ce sujet dans la société et dans le système politique. Il faut aussi comprendre qu'au Brésil, en fait, c'est le système politique qui est corrompu. C'est ça le problème du système brésilien, puisqu'il était basé jusqu'à très récemment sur un financement intégral par le secteur privé. Donc c'est-à-dire que si vous vouliez faire des campagnes politiques au Brésil, il fallait trouver de l'argent pour les secteurs privés. C'est de la corruption institutionnalisée.
Est-ce que Jair Bolsonaro échappe, lui, totalement à ces affaires de corruption ?
En fait, enfin, je ne le sais pas. On n'a pas, à ma connaissance aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez trouble de savoir comment il a été financé, sa campagne. Il y a des choses qui sortent avec le scandale WhatsApp, des entreprises qui auraient payé des millions, etc. On va le savoir.
Oui, des fake news qui ont été diffusées en masse sur ce réseau social.
Et financé manifestement par des grandes entreprises qui soutenaient Bolsonaro. On va le savoir, mais il n'y a aucune raison que Bolsonaro échappe à ce système dont il est une espèce de, je vous dis, de produit un peu parti en un peu fou, quoi, enfin un peu radicalisé. Donc voilà, le problème de la corruption, c'est aussi son instrumentalisation comme arme politique dans une campagne. Parce que ce qu'a réussi à faire la droite, à un moment donné, c'est d'utiliser la corruption comme un sujet qui a permis de disqualifier la gauche, alors que la corruption touche tout le spectre politique.
Tous les partis.
Et d'ailleurs, certains, même plus que le PT, s'il faut être honnête. Quand vous regardez aujourd'hui le destin de M. Eduardo Cunha, qui était le président de la Chambre des députés, qui a lui démarré l'impeachment de Dilma Rousseff, ce monsieur est en prison parce qu'il avait 6 millions de dollars sur des comptes en Suisse liés à l'affaire Lavajato, Odebrecht, etc. M. Temer, qui est sortant, ne doit sa liberté qu'à l'immunité qu'il a réussi à acheter au Congrès récemment. Enfin, c'est tout le système politique qui est pourri. Par contre, la droite a réussi à instrumentaliser, à utiliser en tout cas le thème de la corruption et à en faire un thème unilatéralement visant le Parti des travailleurs pour le disqualifier. Et il faut admettre que ça a marché.
Julia Dumont, sur ce point, je voyais au pied.
Oui, je suis d'accord. Il y a une composante qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent. On a parlé des classes populaires qui ont été déçues par le loulisme dont parlait Frédéric Louault, par les élites qui ont finalement, par pragmatisme, adhéré à Lula, puis ensuite qui l'ont lâché. Et on n'a pas parlé des classes moyennes qui ont été celles qui ont porté, à un moment donné, le rejet de Lula et du PT le plus fort, qui se sont sentis aussi délaissés.
Par déception, enfin, parce qu'elles étaient déçues de l'ancien président. On a parlé
de ce modèle brésilien. Il a profité aux très riches, donc ces élites qui ont su s'allier à Lula, aux très pauvres que les politiques sociales de Lula a tiré de la misère. Et entre les deux, il y a une grosse frange de la population qui s'est sentie quelque part délaissée. Et pour revenir à la question de la lutte des classes et l'histoire du Brésil, il y a le fait que beaucoup se sont sentis déclassés. En voyant les pauvres arriver, il y a une expression qu'on retrouve beaucoup au Brésil, c'est désormais les aéroports ressemblaient à des gares routières. Le fait que des gens très modestes puissent désormais prendre l'avion, c'était quelque part rompre avec une société bien hiérarchisée où chacun est à sa place. Et la corruption, elle a servi, encore une fois, elle est réelle, il ne s'agit pas de la nier, mais elle a servi aussi à une partie de la classe moyenne d'exutoire pour se défouler contre un parti des travailleurs qui ne semblait pas la prendre en compte.
Frédéric Louault, au-delà de la corruption, au-delà aussi de cet aspect catalyseur des déceptions de la classe moyenne, Julia Dumont évoquait tout à l'heure la violence aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de violence. Et on sait que la société brésilienne est une société violente depuis quasiment sa création, depuis qu'elle existe. Cette violence, à quel point a-t-elle joué un rôle important dans cette campagne présidentielle et dans l'élection de Jair Bolsonaro ?
Elle a eu un rôle très important dans la mesure où il y a eu un pic, notamment ce qui concerne les homicides, l'année précédant les élections, en 2017. Et donc ça a fait aussi le nid finalement de la candidature de Bolsonaro, qui a pu dire que tous les candidats du système, entre guillemets, étaient responsables finalement du pourrissement de la situation sécuritaire du Brésil depuis le retour à la démocratie. Ce qui lui a permis finalement de proposer un projet politique très sécuritaire, qui se résume en une phrase, c'est renforcer la violence pour lutter contre la violence, qui passe par finalement un armement des civils et favoriser l'accès des civils aux armes et l'usage de ces armes, mais aussi donner plus de liberté d'action à la police pour pouvoir lutter avec les moyens les plus forts et au mépris du respect basique des droits humains contre la délinquance. Alors, il faut dire derrière ça qu'en effet, il y a une responsabilité des différents gouvernements de tous les niveaux de pouvoir, pas seulement le gouvernement fédéral, mais aussi les gouvernements des États fédérés, voire des municipalités, dans l'augmentation de cette insécurité. Mais l'insécurité dont on parle, c'est essentiellement une insécurité dont sont victimes, pour l'essentiel, les populations les plus pauvres, qui sont les populations jeunes, masculines, afro-brésiliennes. On ne parle pas non plus de toute une insécurité qui est une insécurité du quotidien dont souffrent les femmes, par exemple. Le Brésil est le champion du monde des féminicides, mais ça, ça n'inquiète pas beaucoup Jair Bolsonaro. Mmh. La plupart des femmes qui se font tuer dans le cadre de violences domestiques. Et ça, c'est une violence non plus dont Jair Bolsonaro ne parle pas. Et donc, il y a d'autres éléments de violence, à mon avis, qui devraient ou qui auraient dû avoir écho dans la campagne électorale, ce qui n'a pas été le cas.
Les féminicides que vous évoquez, Frédéric Louot, Christophe Ventura, les violences commises contre les plus pauvres, en France, on pense évidemment tout de suite aux favelas, à Rio. D'ailleurs, une politique a été menée par Lula, puis par Dilma Rousseff, en prévision de grands événements internationaux, la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques. Est-ce que ça a porté ses fruits, cette politique? Visiblement non. C'est ça aussi qui explique la réponse apportée par Jair Bolsonaro à ce problème?
La difficulté avec ces problèmes, c'est que, hélas, tout le monde mentirait s'il disait que ce sont des problèmes qu'on règle en 4, 5, même 10 ans. Des problèmes aussi profonds que ceux dont on parle dans les quartiers populaires, les favelas, etc., sont des problèmes qui demandent en fait des investissements sociaux à tout niveau colossaux, mais qui s'inscrivent, c'est des problèmes qu'on règle sur une génération, voire peut-être même un peu plus. Donc la réalité, c'est celle-là, surtout dans un pays comme le Brésil, qui est consubstantiellement violent, inégalitaire, apartheid social qui confine à l'apartheid racial. Enfin, c'est ça la réalité du Brésil. Donc la solution qui a été apportée par les gouvernements de Lula, etc., certainement n'a pas été encore là aussi suffisante. Ils ont essayé justement de pas laisser libre cours à des politiques ultra sécuritaires, dont ils avaient par ailleurs pas très loin la conclusion. En fait, ce que propose Bolsonaro, j'ai envie de dire, c'est une forme de mexicanisation de la situation au Brésil. Et ce qu'a fait, en même temps que Lula était président du Brésil, lorsque Calderón ou Fox l'étaient au Mexique, qu'ils ont tenté cette main dure, mano dura, comme ils disaient, avec les résultats qu'on connaît. C'est-à-dire une explosion de l'hyperviolence, une violence encore plus sophistiquée, où les gens se font au départ arrêter, parfois tuer par la police, etc., mais dans un deuxième temps se réorganisent ailleurs, sous des formes différentes, avec des armes encore plus sophistiquées, et c'est un processus sans fin. Donc la politique que propose Bolsonaro aujourd'hui, c'est ça, et elle n'aura aucun résultat, et ce sera ça son problème d'ailleurs.
Julia Dumont.
Oui, non, ça n'aura aucun résultat et ça va poser problème de plus en plus. Hein, on a des démocraties où on alterne l'illusion et après le dégoût, le découragement et après le discrédit. Jair Bolsonaro a promis beaucoup. On peut être foncièrement pas d'accord avec ce qu'il propose, mais il ne sera pas en capacité de mettre, heureusement, de mettre en application ce qu'il a promis dans son programme, et notamment pour la violence. On sait que résoudre les problèmes de violence, c'est d'abord résoudre des problèmes d'éducation, de besoins de base. Et Frédéric Louault le rappelait, hein, on peut mettre en cause les gouvernements de Lula et Dilma Rousseff de ne pas avoir assez fait, mais on a affaire à un État fédéral. Donc il faut aussi voir la responsabilité des gouverneurs d'État, des maires de ville. Et prenons l'exemple de Rio, qui est souvent le plus cité. La ville, les gouverneurs de l'État de Rio, de ces 16 dernières années, sont tous en prison pour corruption. Donc il y a un détournement de l'argent public qui est incroyable, et c'était pas des gouverneurs du Parti des Travailleurs. Et on parle beaucoup de la violence urbaine, on parle beaucoup moins de la violence rurale. Et celle-là, elle est aussi très forte, très importante, très radicale. Et ces deux dernières années, on a vu ressurgir ce que l'on croyait avoir disparu, c'est les hommes de main de grands propriétaires terriens qui vont assassiner des leaders de mouvements des sans terres, des populations indigènes. Et ce qu'il faut craindre avec l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, c'est une libération encore plus grande de cette violence, par les paroles qu'il prononce, par le fait qu'il incite ses militants finalement à se faire justice eux-mêmes. Donc même s'il n'y a pas de politique répressive mise en place par Jair Bolsonaro avec l'appareil étatique, il y a déjà une libération de la violence privée.
Brésil, est-ce la fin d'un modèle? C'est la question posée ce soir dans Du grain à moudre avec nos trois invités pour y répondre. Juliette Dumont, que vous venez d'écouter, historienne, Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et en duplex de Bruxelles, Frédéric Louot, professeur en sciences politiques. On a parlé de la corruption, on a parlé de la violence, pour expliquer aussi cette victoire de Jair Bolsonaro et pour essayer de comprendre aussi comment le modèle brésilien est en train d'évoluer. Il y a aussi comme autre raison dans la victoire du candidat d'extrême droite, la religion. Le bloc évangélique auquel appartient Jair Bolsonaro, Frédéric Louot, les évangéliques qui ont pris une place dans la société brésilienne inédite dans l'histoire du pays.
Oui, là encore, c'est une évolution graduelle et ce qu'on appelle le groupe des évangéliques au Congrès était déjà présent avant ces élections. Par contre, c'est un groupe qui s'est renforcé et qui a trouvé une offre politique qui lui convenait et donc qui s'est rangé derrière Jair Bolsonaro, notamment parce que son programme finalement sociétal était un programme tout à fait compatible avec le fondamentalisme religieux de certaines églises pentecostales. Il faut savoir que des personnes comme Edir Macedo, qui est le fondateur de l'une des principales églises évangéliques brésiliennes, soutenait le Parti des Travailleurs, soutenait Lula par le passé, et ont basculé en faveur de Jair Bolsonaro, et maintenant présentent le Parti des Travailleurs comme une menace contre un ordre moral, comme une menace contre la famille brésilienne. Et donc il y a aussi tout un pragmatisme de ces églises qui voient bien qui ont senti le vent tourner et qui vont chercher maintenant à appuyer le candidat qui a le plus de chances de l'emporter pour en obtenir les principaux bénéfices.
Juliette Dumont.
Effectivement, la religion a joué un poids important. Et ce que disait Frédéric sur le fait que Edir Macedo et l'Église universelle du Royaume de Dieu a pu appuyer Lula et maintenant appuie Bolsonaro, ça en dit aussi long sur la volatilité de l'électorat au Brésil, mais plus largement en Amérique latine. Ce que l'on voit aussi actuellement, enfin, qui se révèle au grand jour, c'est le fait que le système de partis au Brésil n'est pas aussi consolidé qu'il peut l'être dans d'autres démocraties. Il y a 35 partis au Brésil, plus de 20 vont être représentés 30, dans le nouveau congrès là, et finalement on a des partis qui n'ont pas de véritable colonne idéologique. Et au congrès, on a des bancadas, donc des groupements d'intérêts, et la bancada évangélique joue un rôle important à côté de la bancada de l'agro-business, du bancada favorable au port d'armes.
Ce seraient des lobbies en quelque sorte dans nos sociétés.
Des lobbies,
les 3B, ce qu'on appelle au
les
Brésil.
Les 3B, sauf qu'ils sont à l'Assemblée, c'est pas des lobbies extérieurs qui viennent essayer de convaincre les députés, mais ils sont dans le Congrès.
3B, bœuf pour l'agro-business, excusez-moi, balle, et B pour Bible, évidemment, pour les évangéliques.
Et sur la religion, ce que l'on voit aussi, c'est que contrairement à des sociétés européennes déchristianisées, on a affaire à une société où la religion est encore très 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 présente. Et lorsque le président Jair Bolsonaro fait ses deux premiers discours, il a la Bible avec lui. Donc le premier discours qu'il fait depuis chez lui, transmis via YouTube.
Hier soir après sa victoire.
Hier soir après sa victoire. Et il cite la Bible et il remercie Dieu. Et le deuxième discours qu'il fait, qui est transmis par les médias en présence d'un seul journaliste, il y a d'abord un pasteur évangélique qui fait une oraison, une bénédiction, et qui en appelle à Dieu. Et Bolsonaro, le slogan de sa campagne, c'est « Le Brésil au-dessus de tout ». Et Dieu au-dessus de tous. Donc on voit là aussi que la séparation de l'Église et de l'État, ou en tout cas la laïcité de la société brésilienne, eh bien, elle pose question également.
La présence de la religion dans cette campagne, dans la victoire de Bolsonaro, Christophe Ventura, est-ce que ça rappelle la dictature ou pas du tout ?
Non, je crois que c'est pas. Non, je pense que c'est pas directement lié les deux sujets. Enfin, pas par cet aspect-là, en tout cas. Oui. Non, je voudrais dire que Bolsonaro est assez habile parce que, en fait, d'abord, il se déclare comme catholique. Il est catholique d'obédience, mais il est adoubé par les églises évangéliques. Donc, il fait bingo, en fait.
Il
s'est fait baptiser. Il faut savoir qu'on estime. Alors, vous savez que le Brésil est le pays le plus chrétien au monde. C'est là où vous avez la foi catholique la plus forte qui décroît. Au profit justement des évangéliques. On estime, je crois qu'au début des années 90, à 95% la population qui se déclarait catholique et aujourd'hui à peu près une 60aine de pourcents. Et les 40 ou les 35 qui restent, c'est justement les fameux évangéliques qui aujourd'hui, on pense que les églises évangéliques encadreraient d'une certaine manière à peu près un gros tiers de l'électorat brésilien. Donc leur influence est énorme. Et donc Bolsonaro, de ce point de vue-là, peut compter sur un appui important. Mais la jonction se fait aussi sur un autre terrain, qui est encore une fois le terrain économique et social. Parce que ce qui est caractéristique des églises évangéliques, c'est qu'elles sont à la fois, conservatrices sur le plan des mœurs et les questions sociétales, ça c'est très clair. Puis de l'autre, elles sont très néolibérales sur le plan économique. Elles sont très entrepreneuses, les églises évangéliques au Brésil.
Et c'est le cas de Jair Bolsonaro.
Ce sont aussi des acteurs économiques. C'est pas juste des gens qui font des prêches, etc. Ce sont des acteurs économiques au Brésil. Il y a des télévisions évangéliques. Et d'ailleurs, la deuxième du pays appartient à des évangéliques. Ils sont dans les affaires, en fait, tout simplement. Et de ce point de vue-là, ils rejoignent, une partie des élites brésiliennes sur cette convergence ultralibérale que Bolsonaro porte aujourd'hui avec en particulier un personnage dont on reparlera, qui est Paulo Guedes,
qui va être le conseiller économique et le futur grand ministre de l'économie, enfin, au tête d'un grand ministère. Vous évoquiez, Juliette Dumont, les deux premiers discours de Jair Bolsonaro hier soir après sa victoire. On va l'écouter à présent, un extrait du deuxième discours prononcé sur son perron devant chez lui. Il pose déjà quelques repères.
Je fais de vous le témoin que ce gouvernement sera véritablement le garant de la construction de la démocratie et de la liberté. C'est une promesse, non d'un parti, non d'un homme. C'est un serment envers Dieu. La vérité va libérer ce grand pays et la liberté va faire de nous une grande nation.
Gouvernement garant de la construction de la démocratie. Est-ce que ce sont des paroles qui vous rassurent, Frédéric Louault, compte tenu de ce qu'a dit précédemment Jair Bolsonaro pendant la campagne?
Donc c'est surtout des paroles qui m'étonnent, puisque ça va à l'encontre de tout ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale, où il méprisait de manière plus ou moins affirmée les principales institutions démocratiques. Après, qu'il dise dans son discours qu'il va respecter la démocratie et respecter la Constitution, tout est question d'interprétation. Donc on l'a vu en 2016, lorsqu'il y a eu la destitution de Dilma Rousseff. Finalement, cette destitution s'est faite au nom d'une constitution et d'un principe constitutionnel, mais qui a été largement surinterprété, bafouant les principes mêmes de la mise en place de cette constitution en 1988. Donc pour la démocratie, c'est le même enjeu, c'est de quelle démocratie nous parle Jair Bolsonaro. Et les messages qu'on a eus pendant la campagne électorale, c'est qu'il s'agissait d'une démocratie sélective et que les personnes qui n'allaient pas être d'accord avec ses principes à lui ne pourraient pas exprimer librement leur désaccord et risquaient même d'être emprisonnées, voire d'être envoyées en exil. Donc c'était un message qui pragmatiquement devait permettre de rassembler un petit peu la société autour de sa figure présidentielle, classique d'un message de vainqueur d'une élection présidentielle, mais il ne faut pas le prendre trop au pied de la lettre.
Est-ce qu'il est une menace pour la démocratie, Jair Bolsonaro, Christophe Ventura?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il en est une dans la mesure où cette démocratie est dysfonctionnelle. C'est une crise démocratique que son élection en fait poursuit. En réalité, c'est comme ça que, en tout cas, moi, je vois le phénomène Bolsonaro.
Pourtant, le peuple s'est prononcé et de ce point de vue-là, la démocratie fonctionne.
Du point de vue électoral, oui, c'est indéniable, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut, comme toutes les élections, il faudra voir ce qu'il va faire. Peut-être que dans 6 mois, les choses seront différentes. Il y a aussi une grosse partie de la société qui n'est pas d'accord avec Jair Bolsonaro. On les a vus ces derniers jours. Tout ça va être très fluctuant, à mon avis. En fait, vous savez, je crois qu'on est dans un moment que certains qualifient de liquide dans toutes les sociétés. Et de ce point de vue, ce qui se passe au Brésil résonne avec ce qu'il y a ailleurs dans le monde. Ce qu'on a dit, à la fois des grandes jacqueries des classes moyennes, liés par leur ressentiment, le déclassement, etc. Au Brésil, j'ajoute, excusez-moi, je fais une digression, mais au fond, pour que les gens comprennent, je crois qu'il y a une revanche d'une partie de la population, les classes moyennes supérieures et les classes moyennes, qui n'ont pas supporté de voir faire des contrats de travail à leurs domestiques. En fait, c'est ça qui aujourd'hui, ou de laisser entrer dans les universités des gens dont elles pensaient qu'ils ne devaient pas y aller, comme les populations noires, afro, indiennes, etc. C'est tout ça qui est en train de remonter et que Bolsonaro, aiguise, etc. Alors, bon, le peuple s'est prononcé, c'est clair, donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, il y aura des discussions à mener sur la qualité de cette campagne, sur la manière dont les gens s'informent, dont leur opinion se forme, dont elle se forge. Et on a au Brésil un cas de marché absolument vorace, si j'ai envie de dire, de la concurrence, des idéologies, etc., qui fait que c'est quand même compliqué de se dire que tout ça va être stable.
Il nous reste un peu moins de 5 minutes, Julia Dumont.
Oui, puis si la démocratie se résume au fait de voter, alors oui, on est toujours en démocratie, mais il n'y a pas eu de débat. Déjà, Jair Bolsonaro a refusé de débattre avec son adversaire, alors invoquant des raisons de santé parce qu'il était poignardé, alors que son médecin a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc, si vous voulez, déjà le fait de refuser le débat démocratique, ça pose question. Le fait de désigner l'adversaire politique comme un ennemi à abattre, ce qui a été le cas de son discours, c'est quand même un gros problème. Et puis, là, on dépasse le cas du Brésil. Vous parliez de l'information. Si un électeur ne peut pas s'informer correctement, donc déjà, il n'y a pas le débat contradictoire. Et ensuite, s'il est abreuvé de fake news, ce terme très à la mode, est-ce qu'on est toujours dans le cadre démocratique ? Le cadre démocratique, il suppose que l'électeur peut choisir en connaissance de cause. Si son opinion a été manipulée, est-ce qu'il peut toujours choisir en connaissance de cause ? Après, il y a ceux qui ont pu être manipulés par les fake news et ceux qui ont vraiment fait le choix de quelqu'un qui prône un autoritarisme, un retour à la dictature et des solutions expéditives.
Les Brésiliens se sont choisis un président, ils se sont choisis un parlement aussi ces dernières semaines. Extraordinairement fragmenté, vous le disiez, Julia Dumont, 30 partis représentés dans ce parlement et le deuxième parti de ce parlement, c'est le parti de Bolsonaro, le premier, c'est le parti des travailleurs, très loin de la majorité absolue, deux chiffres, 257, c'est le nombre de députés pour la majorité absolue. Le PSL a 52 sièges seulement. Frédéric Louault, avec qui Jair Bolsonaro peut-il gouverner ? Est-ce qu'il a besoin de nouer des alliances pour gouverner ?
Alors, il aimerait bien s'en affranchir et d'ailleurs, il souhaiterait faire voler en éclats ce système qui s'appelle le présidentialisme de coalition, où on doit composer avec les différents partis pour créer des alliances qui sont forcément peu idéologiques, forcément hétérogènes et donc instables. Donc, il veut forcer un petit peu la main de ce congrès. Mais il devra quand même compter avec différents groupes partisans ou suprapartisans, même s'il rejette justement la démocratie partisane. Et pour ça, il va pouvoir s'appuyer sur les 3B dont vous avez parlé, donc ces trois groupes suprapartisans de la Bible, de la balle et du bœuf, sachant que le groupe de l'agro-business a perdu un petit peu en puissance par rapport aux élections précédentes, près de 50% d'ailleurs de sa représentation, mais que les deux autres groupes montent en puissance et qu'au total, avec ces trois groupes, plus le PSL qui est dilué notamment dans ces trois groupes, il devrait avoir presque la majorité simple qui lui permettrait de voter des lois. Ensuite, ce sera beaucoup plus compliqué s'il souhaite réformer la Constitution, puisqu'il faudrait passer à 3/5, et là il faudrait constituer une alliance beaucoup plus large et qui semble beaucoup plus difficile à atteindre.
Rapidement, Juliette Dumont, il y a une opposition quand même au Parlement, dans ce Parlement brésilien. Est-ce que cette opposition peut contrer Jair Bolsonaro ?
Il va falloir que cette opposition elle s'organise elle-même, qu'elle-même forme une coalition. Et ça, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce fait-là. Est-ce que le Parti des travailleurs va être à même d'être le leader de l'opposition ? Il faut que ce parti lui-même fasse un travail de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que le Parti des travailleurs va laisser Fernando Haddad être le leader du parti ? Ou est-ce que c'est toujours la procuration de Lula qui va jouer ? Est-ce que le Parti des travailleurs va laisser les autres partis de gauche ou de centre-gauche être aussi des forces de proposition ? C'est toute la question. Et certains commentateurs hier au Brésil disaient en fait l'opposition elle va pas tant se jouer au Parlement qu'ailleurs. Il y a quand même 41 millions de Brésiliens
dans
la société civile qui ont exprimé leur refus, qui jusqu'au bout ont essayé de contrer la vague Bolsonaro. Et même s'ils se sentent menacés, même s'ils ont peur, ces Brésiliens et ces Brésiliennes vont continuer aussi à essayer de défendre la démocratie et les droits humains.
Très rapidement, il nous reste 30 secondes, Christophe Ventura. Un mot quand même des relations internationales, parce que cette élection et cette victoire de Bolsonaro changent l'image du Brésil à l'étranger.
Oui, elle signifie en deux mots un réalignement assumé de la diplomatie, de la politique étrangère et aussi de l'économie brésilienne vers les États-Unis essentiellement, ça va être ça. Et ce qui est très important, c'est que Bolsonaro a dit que la gauche avait vendu le Brésil à la Chine. Ça, c'est une déclaration très importante. Parce qu'elle va dans le sens de ce réalignement avec les États-Unis et parce que Bolsonaro dit qu'il va essayer de contenir désormais la montée en puissance chinoise au Brésil et en Amérique latine. On lui souhaite du courage par ailleurs, mais ça veut dire que c'est un signal qui est envoyé pour une claire alliance avec Donald Trump, puisque la montée en puissance de la Chine, c'est le problème numéro un des États-Unis désormais dans la région.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Juliette Dumont, historienne, auteure de Diplomatie culturelle et fabrique des identités, Argentine, Brésil, Chine, 1919-1946, c'est aux Presses universitaires de Rennes. Merci à vous Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de L'éveil d'un continent, géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe. C'est cher Mancolin. Frédéric Louot, professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi président du groupe de recherche interdisciplinaire sur le Brésil. Vous étiez en direct de Bruxelles. Un grand merci à nos amis de la RTBF qui ont permis ce duplex. Grand merci aussi à l'équipe du Grain à Moudre. Antoine Tricot, Fanny Richet, Camille Ferré, Antoine Luster et Guillaume Laguigné. Réalisation Alexandre Fougeron. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.